Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Mais c'est toujours le paradoxe de la mère et la putain, en fait. Et ça, c'est un des combats féministes qui existent depuis très longtemps. C'est que tu peux être soit l'un, soit l'autre, mais tu peux rien être entre les deux.
Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Taous Merakchi, plus connu sous le pseudonyme de Jack Parker. Taous est auteur et féministe. Elle a publié un livre sur les règles et elle n'a pas sa langue dans sa poche. C'était le premier livre que je lisais sur les règles et c'était top. On parle de son cheminement et de comment on passe de misogyne à féministe. On réfléchit à des sujets compliqués comme « peut-on rire de tout ?». On parle tabou, éducation et représentation des femmes. Elle m'explique le paradoxe de la mère et de la putain et je la questionne naïvement sur tout un tas de choses que je ne connais pas. Des nouvelles choses parce qu'il ne faudrait pas que Nouvelle École rentre dans ses propres sentiers battus. J'adore cet épisode, j'adore cette personne et j'espère que vous aimerez tout autant. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, ça me fait bien plaisir. Une dernière chose, l'endroit est un peu bruyant mais ça se calme au fil de l'épisode. Bonne écoute!
Déjà, quand je parle de règles 10 minutes sur RMC, je me fais harceler pendant 2 jours par des connards. Donc,
Oui, j'ai vu que t'étais passé chez Bourdin.
Oui.
Alors que comment ça s'est passé ensuite?
Ouais, bah, c'était horrible. Hein. Je me suis fait insulter, traiter de pute, traiter de féminazi, évidemment, hein, parce que... Avec, surtout dans
le sens de la mesure.
Voilà, et surtout dans l'environnement actuel où il y a des vrais nazis de la vraie vie qui existent encore vraiment, c'est très important de nous comparer à des gens qui veulent tuer d'autres gens, c'est cool. Donc ouais, non, c'était pas marrant, mais en même temps, bah ça a permis à certains corps de presse de se réveiller qui avaient pas forcément parlé de mon livre ou parlé des règles à la base et qui ont vu tout ce buzz autour de cette histoire et qui se sont dit ah finalement il y a peut-être un truc à faire.
Ouais, une histoire à raconter quoi.
Voilà.
En fait, s'il y a une histoire à raconter, il la raconte, mais sinon.
Voilà.
Eh bien, je suis donc avec Jack Parker.
Bonjour.
Salut. Je sais que donc c'est pas ton vrai nom, c'est un pseudonyme.
Non, c'est pas mon vrai nom. En vrai, je m'appelle Taous.
Voilà, mais je sais pas comment je t'appelais, Taous, Jack. Parce que j'ai vu que chez Bourdin, un coup il t'appelle Taous, un coup il t'appelle Jack.
Bah en fait, je commence à...
C'est terrible
ouais, bah, porte qui grince. Mais c'est pour l'effet gothique.
T'as raison.
Oui, je commence à rendre mon prénom public parce que les gens me connaissent. Enfin, j'atteins des gens qui me connaissent pas d'internet et du coup qui se disent qui est ce Jack Parker qui écrit des livres sur les règles alors que c'est un homme. Non, je ne suis pas un homme. Et donc j'essaye de tabler un peu sur les deux maintenant, mais du coup je suis dans une espèce de dédoublement de personnalité où je sais pas trop.
C'est comme moi, j'ai un compte Twitter perso et un compte Twitter pour Nouvelle École et je sais pas.
Donc pour tous les trucs professionnels, pour l'instant on m'appelle Jack, mais dans la sphère intime, personne ne m'appelle Jack, jamais.
Ok, très bien. Et pourquoi t'avais pris un pseudonyme à la base? Question classique, je pense.
Mais... Oui, classique, mais que maintenant je sais y répondre parce que j'ai répondu plein de fois, donc j'ai ma réponse toute faite. Alors à la base, c'était juste mon pseudo sur internet, sur les forums de Mademoiselle où j'ai commencé à écrire. Et je l'ai gardé parce que je voulais pas que les gens se fassent un a priori sur ce que j'écrivais en fonction de mon genre ou de mes origines, parce que je m'appelle Taous Merakchi, donc c'est pas un nom qui voilà, hein, c'est pas Céline Durand. Et j'avais peur que des gens soit refusent de me lire, soit le lisent avec une idée en tête de elle a écrit ça parce que c'est une femme, elle a écrit ça parce que c'est une femme maghrébine ou machin. Et je voulais juste que ce soit le plus neutre possible et passer en sous-marin dans le dans l'esprit des gens et les forcer à lire ce que j'avais envie de dire sans que parce que moi j'ai été extrêmement misogyne quand j'étais jeune et du coup je refusais catégoriquement de lire des livres écrits par des femmes et de regarder des films réalisés par des femmes parce que je pensais que c'était forcément inférieur et nul.
Pourquoi tu pensais ça?
Bah parce que c'était ce que la société me renvoyait. Qu'on me disait que la littérature de femmes c'était la chick lit, les BD faites par des femmes c'était girly. Enfin tu vois il y a toujours un adjectif hyper péjoratif qui s'associe aux œuvres créées par les femmes. Et je l'ai intégré parce que j'étais jeune et parce que j'ai grandi dans cet environnement.
Et parce que t'écoutais du métal en plus.
Et parce que j'écoutais du métal. Alors en plus voilà j'étais dans un environnement qui est pas très girl friendly. Hein. Bon ça commence à l'être maintenant. Et d'ailleurs au Hellfest il y a plusieurs mecs qui font quand ils sont sur scène qui font des monologues en disant voilà faut arrêter vos conneries de sexisme les mecs faut on il y a tant de groupes frontés par des mecs cette année il y a tant de groupes frontés par des meufs il faudrait que ce soit de mieux en mieux chaque année enfin il y en a vraiment qui commencent à prendre la parole là-dessus donc c'est cool mais quand j'avais 19 ans c'était pas le cas du tout et être une femme c'était nul et enfin, en tout cas c'était ce dont j'étais persuadée et du coup j'ai essayé de m'éloigner de cette identité de femme au maximum pour finalement en arriver à faire que des trucs féministes.
Ouais, c'est ça.
Et aujourd'hui on me connaît pour ça. Donc je trouve que c'est pour ça que mon parcours est intéressant de l'extérieur parce que il y a dans toutes les notions de revendication, il y a toujours ce côté bah je suis née avec et j'ai toujours été comme ça et moi je mets un point d'honneur à montrer aux gens que non j'ai pas toujours été comme ça du tout.
T'as pas toujours été féministe quoi.
Voilà. Mais loin de là, j'étais vraiment là, très très misogyne.
Mais alors qu'est-ce qui a fait que t'es passé de misogyne à...
Bah justement parce que j'ai commencé à bosser chez Mademoiselle et que j'ai commencé à m'intéresser à des sujets de société très très larges concernant les femmes. Et puis j'ai grandi moi-même en tant que femme et j'ai commencé à réaliser tout ce qui se passait autour de moi et tout ce que je subissais en tant que femme et qui était vraiment juste... justifié par mon statut de femme et pas juste parce qu'on m'aimait pas ou parce que j'avais une sale gueule et que plus ça allait plus je me suis dit en fait je crois que toutes ces meufs que j'ai évitées pendant très longtemps elles avaient peut-être raison. Il y a peut-être un truc à creuser et voilà mais ça a été un parcours très très personnel à la base, c'est pas du tout une volonté d'être militant, c'est pas du tout une volonté de revendiquer quoi que ce soit, ça a été d'abord ma découverte à moi de la vie en tant que femme.
Et c'était quoi la vie en tant que femme du coup? Parce que parce qu'on est pas pour le coup c'est pas un thème que j'aborde très souvent. Donc
ouais. Bah c'est typiquement le harcèlement de rue, tu vois. C'est un truc on a été un des premiers médias à en parler en France et à se dire en fait, faut qu'on arrête de penser que c'est normal de se faire accoster sans arrêt dans la rue, de se faire emmerder sans arrêt dans la rue. Et c'est vrai que pour moi, c'était un truc de bah c'est ça arrive, c'est la vie. C'est comme bah parfois il pleut, bah parfois il y a un mec qui touche le cul dans le métro. Ça fait partie de la vie, tu dois l'accepter. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, pourquoi on l'accepte? C'est pourquoi on trouve ça normal? Et j'ai commencé à en parler autour de moi et toutes les meufs qui me disent ah oui moi aussi j'ai dit, si tout le monde peut-être qu'on fasse quelque chose au bout d'un moment quoi.
Et pourquoi personne n'en parle alors?
Mais parce que
tu dis t'as commencé à en parler autour de toi.
Mais parce que c'était accepté. C'était alors déjà c'était un truc dont on parlait pas. Les femmes rentraient pas chez elles en disant oh il y a encore un mec qui m'a regardé dans la rue.
Justement c'est ça parce que moi je sais que pour avoir déjà été dans des relations il m'est déjà arrivé que une copine rentre et me disent vaguement, avec légèreté, oh, il y a un mec qui était relou. Je dis, ah bon, il s'est passé quoi? Non, bah, il m'a suivi sur 2 kilomètres. Ouais. Et après, je suis rentré dans un magasin et il a attendu devant. Et après, j'ai dit au mec de le faire partir et il est parti. Et après, j'ai couru.
Ouais.
Et moi, j'étais là, mais what? Quoi? Ça, c'était un truc. Enfin, tu vois, elle le disait sur un ton de la personne qui a vécu ça 1000 fois.
Ouais.
Et moi, j'étais là, mais c'est un truc de dingue.
Mais parce qu'on commence vraiment à le vivre même avant la puberté pour beaucoup, quoi. Il y en a, leur premier témoignage de harcèlement de rue, c'est quand elles ont 9, 10 ans, où t'as des mecs qui s'arrêtent en bagnole et qui te disent t'es bien mignonne, ou qui te klaxonnent, ou qui te sifflent, avant même que t'aies quoi que ce soit de sexuel, on va dire, physiquement. Même si, voilà, c'est pas parce que t'as une énorme paire de nichons qu'il faut que ça justifie quoi que ce soit, hein. Mais encore, enfin. C'est encore plus fou de se dire qu'il y a des mecs de 30, 40 piges qui n'ont aucun problème à accoster des gamines de 12 ans dans la rue juste parce que c'est des femelles, quoi. Et qu'il faut qu'ils signalent leur territoire en disant, bah là, ma grande, t'es sur mon territoire, donc du coup, je vais bien te le faire comprendre et tu vas bien flipper, quoi.
Et c'est le fait que ça arrive tout le temps depuis aussi longtemps qui fait que les filles en parlent pas, tu penses?
Bah ouais, ça a été tellement intégré.
C'est intégré, quoi.
Ouais. c'est un truc de la vie quotidienne. C'est même pas la vie de femme, c'est, on s'est même pas posé de questions, c'est juste, c'est la vie quotidienne, quoi. C'est, bah, on vit dans une grande ville, on se fait emmerder, point barre, c'est tout, c'est comme ça.
Et encore que je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus facile enfin. Tu croises moins de gens
oui,
en
voilà,
province.
C'est ça.
Mais moi, j'ai vu des histoires tout pareilles de...
Non, mais il y en a partout, évidemment. C'est juste une question, effectivement, de fréquence et de... Moi, je sais que je ne peux pas sortir de chez moi sans qu'il se passe un truc. Parfois, c'est juste un regard.
Donc, c'est tous les jours.
Mais c'est tous les jours, absolument. Et pourtant, je suis pas un canon de beauté. Il y a des jours où je sors vraiment, j'ai la tête en vrac. Je vais juste acheter des tampons à l'épicerie du coin et je suis en pyjama. Mais il faut quand même que les mecs se signalent à moi et signalent leur présence en faisant... soit en me susurrant un truc à l'oreille en passant, soit en faisant un vrai tour de quand je passe devant eux, ils me regardent de face et après ils tournent la tête juste un peu avant que je les dépasse pour pouvoir me regarder le cul. Je me retourne dans ces moments-là et je vois effectivement qu'ils sont en train de me mater le cul. Ou alors oh vous êtes bien belle mademoiselle, mais même pas ils me regardent. Enfin c'est vraiment juste un réflexe de t'es une femme, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je te dise quelque chose. Et je comprends pas à quel point ça peut être aussi normal pour tous ces mecs-là, parce qu'en plus on a tendance à dire que ça vient d'une certaine catégorie de mecs, ce qui est faux, ça vient de tous les mecs, enfin tous les mecs, tout.
C'est salaud.
Voilà, tous les mecs c'est salaud, toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les ethnies, tout ce que tu veux, enfin voilà, il y a beaucoup de débats là-dessus où les gens disent non, c'est que les lascars des cités, c'est complètement faux, les deux fois où je me suis fait agresser dans ma vie c'était par un homme blanc, donc la fois où je me suis fait, il y a un mec qui a essayé de me doigter dans le métro. C'était un cadre blanc en costard cravate avec son petit attaché case là, donc
t'as fait quoi
hein,
t'as fait quoi?
Je vais te tabasser.
Ah ouais,
bah oui, parce que ça c'est ce que je fais, parce que c'est mon réflexe, mais malheureusement c'est pas, enfin toutes les meufs ne sont pas capables, soit physiquement soit psychologiquement, d'avoir ce réflexe là. C'est un truc qui est vraiment instinctif et lié à l'adrénaline, et parce que j'ai fait des arts martiaux quand j'étais gamine, et parce que je suis face à un seul mec dans un espace public. Mais demain je me fais attaquer par 5 mecs, j'aurais beau essayer de me défendre, je me fais défoncer, c'est sûr, quoi. Et ça je le sais, et c'est un truc avec lequel je vis et avec lequel toutes les femmes vivent quand elles rentrent chez elles un peu tard le soir. C'est là potentiellement il peut m'arriver quelque chose. Et c'est horrible de devoir vivre comme ça à Paris, quoi. Tu t'imagines toujours ce genre de truc dans des pays du tiers-monde hyper reculés, où genre non mais c'est acquis que la condition des femmes est pourrie. Bah non, pardon, c'est partout, hein. C'est juste que c'est à des degrés différents, mais c'est partout, quoi.
Et c'est ça qui a fait que t'as lancé un peu dans la cause féministe, en
quelque sorte. Ouais, c'est de la colère, en fait. C'est vraiment de la colère et de la frustration, et d'un jour où je me suis dit mais c'est pas juste, c'est pas normal, et pourquoi? Pourquoi on laisse faire ça, quoi? Et ça va demander des générations et des générations de combats, hein. C'est pas, on va pas résoudre le truc nous aujourd'hui.
Ce serait quoi résoudre le truc?
C'est éduquer les gens différemment.
Ça, c'est une question d'éducation,
ah,
en
c'est
fait.
C'est clairement une question d'éducation, bien sûr. C'est une question d'éducation et de prévention, et ça veut dire que c'est pas seulement les parents qui sont responsables, parce que les parents sont pas toujours capables d'éduquer leurs enfants, parce que soit ils sont nuls, soit ils ont pas les moyens, soit ils sont pas dans leur vie. Enfin, il y a plein de contextes différents.
Plus quand t'es parent, tu ne vois qu'un certain pourcentage de la
Exactement,
vie de ton gosse.
Exactement. Voilà. Il y en a qui sont complètement aveugles et qu'il y a des gamins qui cachent très très bien leur double vie. Mais donc du coup c'est l'environnement social, c'est à l'école, c'est dans la rue, c'est entre potes, c'est justement quand on est un mec et qu'on a un pote qui fait une blague sexiste, raciste ou homophobe, c'est bah, le reprendre et ne plus laisser passer ce genre de truc par défaut, où en fait où on se dit non mais c'est normal, c'est Gustave, il est un peu comme ça. Bah non, il y a pas de il est un peu comme ça, pourquoi on le laisserait être un peu comme ça?
Tu veux dire te moquer de quelqu'un
par exemple, ouais,
par rapport à, parce que question naïve du coup peut-être, mais est-ce que faire une blague raciste? Par exemple, moi, hier, j'écoutais un mec qui s'appelle Gino Bisconte, c'est un stand-upper américain,
ouais,
très très marrant, et qui lâche des blagues mais hardcore pendant 1h30,
ouais,
ultra raciste, ultra homophobe. Mais c'est pas, tu vois, comme tu sais que le type n'est ni homophobe ni raciste ni rien,
ouais,
et qu'il est très très loin de tout ça,
ouais,
en fait, parce qu'il est bon. Du coup, tout le monde est mort de rire, tu vois.
Ouais. Donc,
dans quelle mesure est-ce qu'il faut, est-ce qu'il y a des trucs que t'as pas le droit de dire mais là, j'ai l'impression que on parlait pas de la même chose, en fait, peut-être.
Bah, un peu, si, c'est un peu, justement, remettre en question tout ce qu'on dit et tout ce qu'on prend pour acquis et tout ce qu'on, c'est cette fameuse expression que je ne supporte plus de, on peut rire de tout, même avec tout le monde.
Toi, tu penses qu'on peut pas rire de tout?
Je pense qu'on peut rire de tout.
Tout seul.
Mais ouais, il faut choisir son contexte, il faut choisir la façon de le faire aussi, parce que le problème avec les blagues racistes, homophobes, sexistes, etc., c'est qu'on rit sur exactement les mêmes choses que des gens disent au premier degré. C'est-à-dire que moi, en étant d'origine maghrébine, on me fait des blagues sur le couscous, on me fait des blagues sur le rail, on me fait des blagues sur la danse du ventre, on me dit retourne dans ton pays, on laisse pas son portefeuille à côté de moi en me disant ah, sinon tu vas me le voler. Enfin, tu vois, des trucs débiles comme ça, mais qui sont des trucs que j'ai reçus au premier degré dans ma vie aussi.
Ouais, ouais.
Donc si tu veux rire de mes origines, vas-y, mais trouve autre chose. Il y a plein de choses dont on peut rire. Déjà, je suis kabyle, je suis pas arabe. Et quand je dis ça, les gens me disent, bah, c'est pareil. Et très rarement, les gens me disent, ah bon, mais c'est quoi la différence?
Il y en a, enfin, pas, qui disent, il y en a pas qui disent comme Zidane.
Voilà, il y en a qui disent ça, par exemple. Mais ça s'arrête là. Et du coup, si tu fais l'effort de t'informer, si tu fais la démarche de t'informer sur la personne et sur ses sensibilités et sur ce qu'elle est, après, tu peux faire des blagues qui sont un peu plus fouillées. Enfin, moi, j'ai des potes maintenant qui me font des blagues hyper ciblées sur la Kabylie. Ben, ça me fait mourir de rire parce que je sais que ça vient d'un apprentissage de leur part, parce qu'ils m'ont écouté, parce qu'ils m'ont respecté, et parce qu'ils savent ce que je suis capable d'accepter ou pas. Après, je vais mourir. Après, j'ai pas mal de potes humoristes qui sont pas du tout d'accord avec moi là-dessus, et je comprends que ce soit difficile parce que du coup, ça veut dire qu'on leur interdit plein de choses. Mmh. Et moi, je vois pas ça comme une interdiction. Je vois ça comme une autorisation de réfléchir autrement. Tu vois, c'est, on t'enlève pas une liberté, en réalité. On te demande juste de réfléchir à d'autres méthodes et considérer d'autres façons de rire des mêmes choses, mais avec un peu plus de recul, un peu plus d'inventivité, un peu plus de... Enfin, fais pas les mêmes blagues que le FN, quoi. Parce que le FN, c'est pas des blagues. Et que moi, je me suis fait traiter de bougnoule au premier degré dans ma vie. Donc du coup, quand mes potes me disent la bougnoule, eh ben, ça me fait pas marrer. Parce que c'est un truc que j'ai vraiment vécu et il y a vraiment des gens qui veulent que je retourne dans mon pays alors que je suis né en France, quoi.
Après, pour le coup, c'est pas une excellente blague, quoi.
Bah non, pas trop, non. Donc, mais après, voilà, moi, il y a plein de moments où je rigole face à des blagues homophobes, sexistes ou racistes, etc. Enfin, qui sont considérées comme telles parce que justement, elles sont bien faites et elles font pas mal. Et ça, il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec cette idée que les blagues ne doivent pas faire mal. Moi, c'est un peu mon idée de l'humour, c'est pas fait pour faire mal, c'est fait pour rassembler. Et il y en a plein qui disent, bah non, mais à partir de là, on fait plus rien et on peut plus rien dire et on peut plus rire de rien.
Je suis presque un peu d'accord, en fait. Bah... Je suis presque du camp où j'ai l'impression que l'humour, ça doit être un truc très très violent, tu sais.
Oui.
Mais très très violent, quoi. Presque, presque dérangeant, tu vois. J'ai l'impression que du coup, ça fait sortir des trucs, des rires que t'attendais pas un peu, tu vois.
Mais le truc, c'est que.
Le problème, c'est après, c'est une question de frontière entre l'humour et
voilà.
Le monde réel.
Et surtout, tu sais, tu sais pas qui est ton public. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui tu vas faire une blague qui vont se dire, tu vois, des gens comme toi et moi, ils vont se dire, je sais que c'est pas vrai, mais ça me fait rire justement parce que c'est pas vrai. Et t'en as d'autres qui ont déjà une idée préconçue qui ressemble à cette blague-là. Et ça va les conforter, en fait, dans cette idée-là. C'est-à-dire que si tu dis, tous les noirs savent grimper aux arbres, nous, on sait que c'est pas vrai. Donc, il y a quelqu'un qui va faire une blague sur un noir qui monte aux arbres et on va faire, il se rigole du cliché. Et t'en as qui le pensent vraiment et qui vont dire, ah bah voilà. Tu vois, c'est.
En fait, ça dépend de quel côté tu mets la responsabilité.
Exactement.
En fait, ça, tu la mets du côté du public en disant, bon, bah, moi, je prends pas les gens pour des idiots, donc je considère que c'est pas des abrutis et qu'ils ont été éduqués, soit ils s'éduquent.
C'est ça.
Ou alors, tu mets la responsabilité du côté de l'humoriste en disant, les gens sont des abrutis. Enfin, ou potentiellement. Et du coup, c'est de la faute de l'humoriste qui devrait pas.
Exactement. Mais c'est pour ça que c'est compliqué comme débat, c'est hyper délicat. Et c'est pour ça que je pense que ça va prendre plusieurs générations à se caler, parce que justement, la racine, c'est l'éducation première, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus ces idées-là à la base, et là, on pourra s'éclater sur plein de trucs. Et effectivement, je pense que l'humour doit provoquer, l'humour doit être parfois cruel et cinglant et noir et glauque et tout, et j'adore ça, mais... j'ai le cul entre deux chaises par rapport à ça, parce qu'il y a des trucs vraiment qui me font hurler de rire. Et après, je me dis, putain, mais je devrais pas rire de ça. Enfin, j'ai une espèce de conscience maintenant qui s'est activée et je sais plus. En fait, j'arrive plus à savoir où est mon baromètre, quoi.
J'ai l'impression que le rire, c'est le rire, quoi. Et que, en fait, si tu ris, tu devrais pas te sentir coupable de rire, tu vois. Et que, ça peut amener à se poser des questions, en fait. Et ça, c'est intéressant, mais que je pense que c'est ça que j'aime bien dans le rire aussi, c'est que ça fait appel à un truc assez primaire, tu vois. T'as raison, en fait, hein, ce café était hyper tranquille. On a bien fait de venir ici.
Désolé.
Non, c'est pas de problème.
Non, mais ça fait une petite ambiance bistrot, c'est bien, c'est à l'ancienne.
Non, mais on parle du coup de... Tu dis, c'est une question d'éducation et de faire disparaître ses idées. Etc. Mais ça, en fait, ça passe par quoi? Par exemple, par ce que tu fais quand tu publies ce genre de bouquin sur...
Par exemple, ouais.
D'ailleurs, le livre de Jack Parker, Le Grand Mystère des Règles, pour en finir avec un tabou vieux comme le monde.
C'est ça.
Aux éditions Flammarion.
Oui.
Voilà.
J'en suis très fière.
C'est parce qu'en fait il y a tu sais là on parlait de la vie quotidienne des femmes et je te disais c'est quoi et aussi pourquoi est-ce qu'elles en parlent pas plus et, parce qu'en fait c'est acquis comme une habitude et qu'en fait on a est-ce peut-être qu'on dit pas assez que c'est pas normal récemment ces dernières années ou ces derniers mois disons t'as des scandales plus ou moins à chaque fois qu'un truc se passe à la télé qui est un peu et ça c'est assez récent finalement quand tu vois je sais plus qui c'était mais quel mec fait mine de niquer une fille sur un plateau de Hanouna ou je sais pas quoi là du coup les gens commencent à dire c'est pas cool et en fait ça c'est récent donc c'est ce genre de mouvement pour toi
bien sûr C'est vraiment prendre conscience de tout ce qui nous entoure et se poser des questions. Alors après, ça veut pas dire qu'on aura toujours raison de s'indigner. Ça veut pas dire que tout le monde s'indignera sur les mêmes choses et qu'on sera tous d'accord. Mais au moins, c'est vraiment se poser des questions sur tout ce qui fait partie de notre environnement quotidien et de tous les trucs qu'on considère inoffensifs et normaux. Et enfin, se poser des questions sur la norme, justement. Qu'est-ce que c'est que la norme et à qui ça profite et à qui ça fait du mal? Parce que finalement, on se rend compte que la norme, elle est faite pour, principalement dans notre société, les gens qui sont blancs et valides et, relativement beaux, hein, même s'ils sont, bof, mais au moins qu'ils soient pas gros, qu'ils soient pas, handicapés, tout ça. Et du coup, tout le monde crie à la discrimination positive en disant, ah, mais c'est pas bien, elle est connue, nanana. Bah, en fait, on est obligé de forcer les gens à mettre les coups de projecteur sur les autres parce qu'ils ne le font pas d'eux-mêmes. Mmh. Et je parlais il y a pas longtemps avec une personne à qui je disais tu vois par exemple le débat sur le voile en France, on voit rarement de femmes voilées en parler à la télé. On invite rarement les femmes voilées pour en parler. Il me dit mais si l'autre jour il y avait machin qui a été invité. Je fais OK, et qui étaient les autres invités? Incapable de me le dire. Et en fait, à partir du moment où tu peux citer la personne qui fait partie d'une minorité que tu as vue pour contrer mes arguments, c'est qu'il y a un problème, parce que tout le reste, tu peux pas le citer. C'est comme si je te disais, cite-moi un homme politique blanc français.
J'en ai plein, moi.
Voilà, voilà, t'en as plein. Alors, cite-moi une femme voilée, connue, militante.
Aucune idée.
Voilà. Donc, tu vois, c'est juste une question de représentation de si les gens sont capables de dire « mais si, j'en ai vu deux une fois », c'est vraiment genre « bah non, mais j'ai un ami noir ». C'est exactement la même racine.
En fait, la théorie de par rapport à la discrimination positive, moi, je trouve que la discrimination positive, quand tu le regardes en tant qu'idée, tu trouves que c'est une mauvaise idée.
Ouais.
Et en fait, c'est comme la loi du marché. Le problème, c'est que t'aurais tendance à croire que les choses vont s'équilibrer, tu sais, et qu'en fait, les meilleurs talents vont trouver les meilleurs boulots, etc. avec le marché. Et en fait, non. Donc, tu te rends compte qu'il y a besoin d'une dose de régulation.
Exactement.
En fait, d'introduction d'un autre facteur quoi dans l'équation.
Bah ouais.
pour pouvoir rééquilibrer un peu, parce que sinon ça n'arrivera jamais en fait.
Voilà.
Le truc où tu te dis mais si en fait il faut pas faire discrimination positive parce que du coup c'est des gens moins bons qui accèdent au job, etc., tu vois, ce genre de truc. Mais encore une fois, je pense que c'est encore une fois un débat compliqué qui demande une réflexion. Et je pense que c'est ça aussi qui est compliqué, c'est de réfléchir.
Mais c'est ça. Mais c'est qu'il y a plein, tous ces débats-là, c'est des débats qui se réfléchissent sur long terme. Et aujourd'hui, je te dis tout ça. Ça se trouve, dans 6 mois, je me réécouterai et je me dirai, non, là-dessus, j'avais pas raison, c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec, enfin, je me laisse quand même.
Toi, tu préfères avoir des vues fortes, quitte à ce qu'elles soient. Est-ce que tu les trouves fausses plus tard?
Ça dépend. C'est, en fait, si moi, au moment où je les énonce, si moi, je suis complètement à l'aise avec ce que je dis, je l'accepte. J'accepte aussi de changer d'avis. Si par contre, enfin, il y a des sujets sur lesquels, je suis pas sûr d'avoir une opinion tranchée. Et dans ces moments-là, je ferme ma gueule parce que je sais que je vais dire n'importe quoi, je vais pas avoir d'arguments, je vais pas avoir de. Quand je suis capable d'argumenter sur un sujet, j'y vais.
Tu préfères te taire que prendre position quand tu sais pas vraiment.
Ouais.
Okay. Parce qu'il y a un autre truc qui. T'en parles en fait dans ton bouquin. Dans ton bouquin, on va en parler un peu plus après, hein, mais dans ton bouquin, il y a tout un passage sur le fait que. Déjà, il faut que les filles réalisent que les règles sont différentes pour tout le monde.
Mm-hmm.
Et que donc, c'est pas parce que la norme, encore une fois, te dit que les choses sont comme ça, que toi, tu dois être comme ça, et qu'il faut pas se sentir coupable par rapport à ça. Et surtout, tu dis que tu dois pas laisser qui que ce soit te dire quoi faire avec ton corps.
Exactement.
Et en fait, moi, j'ai le sentiment que dans tous ces débats, que ce soit la discrimination positive, le voile, le harcèlement de rue, ces genres de choses, c'est toujours des gens... Les gens sont tellement prompts à dire aux autres comment vivre leur vie, alors qu'ils n'ont jamais vécu ces éléments.
Exactement.
Et je trouve que c'est un gros problème, et dans les débats, on arrive très très souvent là-dedans, et parfois, moi, j'arrive pas à avancer dans un débat, parce que c'est ça qui me bloque, en fait.
Mm-hmm.
C'est qu'il y a plein de gens qui disent « Non, mais attends, il faut qu'ils fassent comme ça
!»
Mais pourquoi?
Ouais.
Déjà, pourquoi t'as envie de décider de comment eux vivent leur vie? Et deuxièmement, t'as jamais vécu ce genre de problème.
C'est ça.
Mais même pas à 100 mètres, quoi. Et c'est un truc qui me... C'est un truc que je trouve vraiment problématique, en fait,
bah
et qui existe depuis la nuit des temps, et c'est tout le rapport à la morale et décider pour les autres comment ça doit être, et toutes ces histoires aussi d'intérêts communs supérieurs aux intérêts des individus dont je suis pas spécialement fan d'ailleurs. Désolé pour les gens du podcast qui décident de se désabonner. Mais oui, voilà, je pense que ça, c'est un des vrais problèmes fondamentaux. Je pense qu'on devrait apprendre aux gens à arrêter de dire aux autres comment vivre leur vie. C'est un bon truc à leur apprendre, quoi.
Et surtout à écouter ceux qui sont concernés. Parce que ça, c'est un truc qu'on fait jamais. C'est-à-dire qu'on parle toujours à la place des gros, on parle toujours à la place des noirs, on parle toujours à la place des musulmans, et on les fait pas parler eux-mêmes. Et du coup, on se fait une idée à travers tout ce que les mêmes personnes appartenant à une même caste disent et répètent sans arrêt. Et finalement, les personnes concernées, ben, elles sont là en bas en train de faire « Et nous, quand est-ce que vous nous écoutez ?» Et on est obligé de parler en marge et de trouver des réseaux en marge pour pouvoir en parler entre nous. Et c'est pour ça qu'il y a des lieux de non-mixité qui naissent, des festivals de non-mixité qui naissent aujourd'hui. Et qui font débat parce que forcément les hommes blancs ils ont pas l'habitude qu'on leur refuse grand chose et qu'on leur refuse l'accès à quoi que ce soit. Pour eux c'est complètement inhabituel, alors que pour les autres ça fait bien longtemps qu'on nous refuse l'entrée à plein de trucs. Et il y a effectivement des débats qu'on ne peut pas avoir avec des gens qui ne sont pas concernés. Il y a des discussions qu'on ne peut pas avoir, on les aura dans d'autres contextes, potentiellement dans l'intime, autour d'un verre ou enfin à une autre occasion, mais il y a des moments où on a besoin de se rassembler et de partager des expériences avec des gens qui vont dire oui je comprends, oui je t'entends, oui moi c'est pareil, ça résonne, et pas juste des gens qui disent mais vous êtes sûr que c'est pas parce que mais vous avez essayé de non arrêtez, foutez-nous la paix, là on a juste envie de partager nos expériences sans filtre et sans adapter nos discours à justement des personnes qui ne sont pas concernées. Ça vient après. Il y a des personnes qui ont envie de le faire, d'autres qui n'ont pas envie de le faire. On n'est pas tous pédagogues, on n'a pas tous vocation à éduquer les gens. Et ça aussi, il faut le respecter, quoi.
Ça, c'est un truc, pour exemple, le sujet de la non-mixité sur lequel je ne m'aventurerai pas, car je n'en ai aucune idée. J'ai vaguement regardé, je me suis dit, ouais, c'est bien, non, c'est pas bien, je sais pas, d'accord.
Voilà. Tu vois, si tu sais pas, bah, tu parles pas.
Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que, enfin, toutes ces histoires de d'éducation, de réfléchir, en lisant ton bouquin et des trucs sur toi, tu parles souvent de ton éducation à toi, et tu dis toujours que t'as eu la meilleure maman.
Oui.
Et je sais pas si cette manière de réfléchir, parce que au départ tu dis que t'es misogyne, ouais. Mais il y a quand même un moment où dès que tu commences à te dire qu'en fait le bon combat pour toi c'est le combat plus féministe,
ouais.
Tu commences à réfléchir dessus, à produire dessus, à partager là-dessus. Et tu penses que ça te vient d'où en fait?
Ah mais ça vient de mon éducation justement. C'est pour ça que j'explique aussi aux gens que j'ai pas tellement de mérite, dans le sens où j'ai pas un parcours qui fera la une des journaux en disant elle a tout surmonté pour en arriver. Non, j'ai rien surmonté. Enfin, si, j'ai surmonté des trucs personnels, mais c'est autre chose. Mais parce que je suis vraiment née dans un environnement avec une mère qui est travailleur social, qui a un master en sciences de l'éducation, donc qui est du coup assez portée sur ces questions-là de base, et qui m'a toujours donné des valeurs d'égalité, de compassion, d'empathie, de pédagogie, etc. Et c'est juste que c'est ma crise d'adolescence et mon entrée dans le monde en dehors de ma cellule familiale qui a eu une influence par la suite sur ma vision des femmes et aussi ma haine de mon propre corps, ma haine de ma propre sexualité, ma haine de mon genre, etc. C'était très très personnel et très personnel, et c'est juste c'est une crise d'adolescence, une crise existentielle de je me déteste et du coup je déteste tout ce qui me ressemble, quoi. Mais une fois que j'ai dépassé ça et que je suis devenue adulte et mature, n'est-ce pas, je suis revenue à des valeurs qui sont vachement plus proches de mon éducation, et c'est là que je me rends compte qu'en fait les bases étaient déjà posées. J'ai eu cette chance-là, c'est que les bases étaient déjà posées par ma mère, justement.
C'est quoi les bases, alors, justement? Parce qu'en plus, tout à l'heure, tu me disais que peut-être, dans un futur, t'allais...
Enfanter?
Ouais, enfanter, exactement. Et c'est un sujet dont on ne parle pas énormément sur le podcast, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, moi, pour le coup.
Ouais.
L'enfantation. Et c'est quoi les bases, en fait, justement, pour toi?
Bah, c'est ce que je disais, pour moi, c'est vraiment des questions d'empathie et de compassion. En premier lieu.
Empathie, et voulant dire te mettre dans la peau des autres.
Ouais, c'est ça. Écoute les autres, pars du principe que, enfin, même si quelqu'un t'énerve, t'as le droit de t'énerver contre cette personne, de dire putain il m'a cassé les couilles, mais prends en considération aussi son parcours. C'est-à-dire que ça n'excuse pas tout, mais au moins ça explique. Et en expliquant certaines choses, ça te permet de prendre du recul et de mieux comprendre certaines situations, au lieu juste de partir en frontal et défoncer une personne qui juste a eu un mauvais jour ou qui a une éducation qui fait que vous êtes pas d'accord sur certains principes, mais ça veut pas dire que cette personne peut pas changer, ça veut pas dire que ces échanges ne peuvent pas se faire. Et ma mère m'a toujours appris à établir un dialogue et à établir une communication, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à avoir des discussions avec des gens qui avaient des opinions qui étaient à 50 milliards de kilomètres des miennes, et au bout d'une heure parfois de conversation on se dit on a eu raison de s'écharper et de se dire maintenant tu dis de la merde, parce que maintenant on arrive
à un point
Je plante des graines en fait, et les gens plantent des graines en moi aussi, et pour moi c'est vraiment
la notion des vases communs.
Et il y a des jours où j'ai pas cette patience, il y a des jours où je dis juste va te faire enculer, laisse-moi tranquille.
Ouais.
D'ailleurs j'essaie de corriger mon vocabulaire, parce que va te faire enculer n'est pas une insulte très safe, elle est problématique, parce que qu'est-ce qu'il y a de mal dans le fait de se faire enculer concrètement?
Je ne sais pas.
Voilà.
Question piège. On n'a dit pas de question piège sur Nouvelle École.
Non mais voilà, c'est juste pour dire qu'on en arrive à vraiment tout questionner au bout d'un moment, et je comprends que il y a des gens que ça fatigue et qui se disent non mais c'est bon, au bout d'un moment laissez-vous vivre, vous n'allez pas.
Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi, c'est une question de combat, quels sont tes combats? Voilà. Je pense pas que tu puisses porter tous les combats dans la vie, tu vois, tu peux pas être 100% écolo, 100% féministe, tu peux pas te battre pour, enfin bref, il faut choisir des trucs. En plus, il y a un autre sujet qu'on a abordé avec un type qui s'appelle Odieux Connard, je sais pas si ça te parle, qui est venu sur le podcast, c'est les combats invisibles.
Ouais.
C'est-à-dire que, il y a tes combats visibles, donc toi par exemple, tu as ton bouquin sur les règles, ton blog dessus, etc. Et puis il y a tous les autres combats.
Bah alors,
être gentil, c'est un combat.
Bah ouais.
Mais tu vas pas tweeter toutes les 5 minutes que t'es gentil.
Bah non.
Et le problème, je pense aussi, c'est parfois un sentiment de d'être pris un peu pour des idiots quand tu vois beaucoup, beaucoup de gens qui publicisent leurs combats en permanence et où tu te dis, bon, moi ça m'arrive, on en a déjà parlé pour le coup, mais ça m'arrive beaucoup de fois de des potes ou des gens que je connais qui se disent très féministes et qui manquent pas une occasion d'en parler en public, je suis avec eux, ils vont me dire, ah mais elle a couché avec plein de mecs, quelle grosse pute en gros, tu vois.
Ouais.
Et moi je me dis, mais enfin tu vois, genre pour le coup, si je défends bien un droit des filles, c'est le droit à coucher avec plein de garçons, parce que je pense que ça arrangeait tout le monde en plus. Mais tu vois, je veux dire, il y a la façade et puis il y a le vrai combat. Et tu sais jamais finalement quel est le vrai combat des gens. Tu sais pas si dans leur sphère privée, ils sont pas en train d'être super cool, de faire vraiment avancer les choses, tu vois.
Ouais.
Et je pense que ces combats de sphère privée sont tellement importants.
Mais tu les reprends, tes potes, quand tu les entends dire ça?
Est-ce que je les reprends? Ouais, vaguement, quoi.
Vaguement?
Attends, mais moi, je pars de loin, hein. J'avance lentement, hein.
Ouais, mais tu vois, ça fait partie des premières étapes où, enfin, déjà, il faut que tu t'intègres l'idée toi-même. Et après, on a besoin d'alliés. Et, parce qu'on peut pas on peut pas tout combattre tout seul. On a besoin de la race humaine entière, hein, pour s'améliorer. Et on a besoin d'alliés qui disent justement à leurs potes, en fait, ce que tu viens de dire, c'est de la merde et c'est problématique parce que si, parce que ça. Pour planter des graines. Après, ça marche pas. Il y a des gens, c'est des connards, ça restera des connards. Et à ce moment-là, tu les vires de ta vie et voilà. Mais. En fait, on a tellement l'habitude, ce que je disais tout à l'heure, d'accepter que Bidule, il est comme si... non, mais Bidule, il est un peu réac, machin, il est un peu vaguement raciste. Et on s'entoure de gens en se disant « Ouais, mais bon, au moins, il est cool, enfin, il est marrant. » Bah oui, mais s'il est marrant, mais qu'à côté de ça, il a des propos qui sont vraiment problématiques et qui peuvent faire du mal à des gens, c'est aussi un peu ta responsabilité en tant qu'ami, parce que tu l'as intégré dans ta sphère sociale, de lui faire remarquer que ce qu'il dit, c'est pas très très cool.
Mm-hmm.
Parce que s'il disait un truc sur ta mère, tu le reprendrais.
Oui.
Voilà. Donc du coup, pourquoi ça devrait pas s'appliquer au reste des femmes?
Bah, j'avance. C'est horrible. Je me fais.
Non, mais je te fais pas un procès. Non,
bien sûr, je sais. Mais je pense que j'essaye justement de plus en plus d'en parler. Et d'ailleurs, j'en parle même en public, sur le podcast, etc. Donc je vais dans cette direction. À mon avis, tu vois, des gens que tu connais.
Oui.
Ah pardon. Le fameux bar tranquille.
C'est mon QG.
Sans interruption.
J'ai raté. Je pensais qu'on serait au calme, j'ai raté.
Et alors pourquoi t'as choisi, il y a des questions qu'on t'a déjà posées, hein, mais pourquoi du coup dans toutes ces directions, dans toutes ces tangentes possibles en fait, t'as choisi de partir sur les règles?
Parce que les règles, c'est un excellent cheval de Troie. C'est-à-dire que, en faisant mes propres recherches, donc tu m'aurais dit il y a 4 ans que j'écrirais un livre sur les règles, je t'aurais regardé comme si tu descendais de l'espace. Mais en faisant donc mon propre cheminement féministe, en lisant de plus en plus de blogs personnels, des trucs, des Tumblr un peu alternatifs, chelous sur body positive et sex positive et tous ces trucs qui sont vraiment dans le féminisme actif très concret, je suis tombée sur plein de sujets sur les règles. Et je me dis, mais pourquoi ça revient tout le temps? Qu'est-ce qu'on vient mêler les règles à ça? Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Et plus je faisais de recherches, plus je me suis rendu compte que ça touche à absolument tous les sujets concernant les conditions des femmes et plus généralement de l'humain, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui ont leurs règles, hein, c'est encore un autre débat sur lequel il faut avancer, c'est l'inclusion des genres et des identités de genre. C'est compliqué à faire entendre à certaines personnes, mais...
Comment ça ?
Bah, et que ça, c'est des questions transgenres par exemple, et des personnes non binaires, c'est-à-dire que tu peux naître avec un utérus mais t'identifier comme homme, du coup t'auras tes règles mais t'es un homme, et tu peux à l'inverse naître avec un pénis mais t'identifier femme, et du coup tu es une femme concrètement mais tu n'as pas tes règles. Donc, et nous on grandit toutes avec cette phrase de quand on a nos règles de ça y est t'es une femme maintenant. Ce qui
qui est pas la, une super idée en fait.
Et voilà, c'est de la merde pour plein à plein de niveaux, pas au niveau seulement de la considération du genre de la personne, parce que effectivement, bah qu'est-ce que t'en sais que c'est vraiment une femme et qu'est-ce que t'en sais que voilà, enfin c'est que tu vas, il y a un petit garçon qui naît et qui se dit bah en fait je suis pas un petit garçon, je suis une petite fille. Il va devenir, enfin il va se révéler femme. Et il aura jamais ses règles, enfin elle aura jamais ses règles. Tain, c'est compliqué. J'essaye de faire attention à heurter personne, mais j'ai au du genre, mal encore. Hein,
mais pas, ça va, je pense que les gens sont pas vont pas se vexer, hein, t'inquiète pas.
Bah c'est possible, hein, et du coup c'est pour ça que j'essaie de faire gaffe, parce que justement ma démarche c'est d'essayer de faire le moins de mal aux gens. Donc du coup j'essaie de contrôler mon vocabulaire, mais c'est pas simple. Et bref, donc c'est cette femme va grandir sans utérus, sans avoir ses règles, dans une société où la féminité est en partie définie par les règles, et du coup, on va lui dire qu'elle sera jamais complètement femme parce qu'elle n'a pas d'utérus, ce qui est complètement faux parce qu'en réalité, c'est vraiment une femme. Donc on part vraiment dans des questions donc ça c'est pour les questions de genre, mais autour des règles, on parle de politique, on parle d'économie, on parle de santé, on parle de
sexe. Mais attends, parce qu'en fait ça dépend de ce qu'on appelle femme ou homme, non, puisqu'il y a deux réalités, il y a une réalité peut-être de comment tu te sens et de comment t'es dans ta tête, et une réalité peut-être biologique de base qui c'est pour ça, non.
Ouais, mais...
je sais pas, j'ai terrain miné, attention, je... très, ouais. Fin de carrière.
En plus, non, mais surtout, je sais, je suis vraiment, étant moi-même une femme qu'on appelle mon cisgenre, c'est-à-dire que je suis née avec un utérus et je me sens femme, je suis pas la meilleure personne pour ouais. en parler.
Non, mais moi, je sais pas non plus, juste, je, pour le coup, dans le côté un peu, compréhension du problème, c'est parce que je pense que c'est compliqué de se...
Bah, en fait, si, tu nais avec un pénis, tu peux grandir en disant ce pénis ne m'appartient pas, je ne suis pas censée avoir ce pénis parce que je suis une femme. Donc ta biologie.
Toujours est-il que tu l'as.
Hein?
Toujours est-il que tu l'as, non?
Oui, mais.
Du coup, est-ce qu'il n'y a pas deux réalités un peu.
Bah, il y a la réalité de ce que la société te renvoie, parce que la société te considère comme un homme, par défaut, parce que t'as un pénis. C'est-à-dire que tes parents, à la naissance, ils voient un pénis, ils t'appellent Benoît et pas Jacqueline. Donc, voilà. Et après, donc il y a tout ton combat à toi du moment où tu réalises que bah en fait non, t'es pas dans le bon corps, t'es une femme quoi. Il y a pas à tortiller du cul, c'est juste t'es une femme et t'es née dans le mauvais corps. Et à ce moment-là, il y a toute une réappropriation justement de la biologie à faire. C'est pour ça qu'il y a des opérations, c'est pour ça qu'il y a des traitements d'hormones, etc. Pour essayer de faire en sorte que ton corps ressemble le plus possible à ton identité de genre. Mais c'est une question qui est extrêmement compliquée. Encore une fois, moi, je ne l'ai pas vécu. Et en plus, j'ai même pas de personne transgenre dans mon entourage. Donc vraiment, je suis la dernière personne qui devrait en parler. Mais je pense que c'est important de le garder dans un coin de sa tête quand on considère femme-homme et qu'on parle de ce genre de questions, justement, notamment les règles. Parce que les personnes transgenres sont systématiquement exclues du discours sur les règles.
En fait, être tolérant, c'est hyper compliqué, quoi.
Oui. Mais
je disais ça naïvement, ouais. c'est une phrase à la bloquer, tu sais. Ça me laisse...
c'est ça.
En fait.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent, oh non, mais ils commencent à pencher la tête par la fenêtre, à dire, oh non, c'est la merde, je vais rester chez moi. Et je comprends ce réflexe-là parce qu'effectivement, plus ça va, plus on rajoute des trucs avec le vocabulaire inclusif, avec le harcèlement de rue, avec les questions de genre, avec tout un tas de trucs. Et du coup, si toi t'as 40 trains de retard, bah forcément l'idée de rattraper tout ça, ça te pétrifie quoi. Et donc ton premier réflexe, ça va être de dire non, c'est de la merde, laissez-moi tranquille, venez, on garde les choses simples, mais parce que les choses sont simples pour toi. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut faire attention au fait que bah c'est pas simple pour tout le monde, et t'es pas tout seul sur cette planète. Et du coup, il faut prendre en considération le fait que bah il y a des gens pour qui c'est super compliqué quoi, et à des degrés très différents. C'est-à-dire qu'une femme n'aura pas les mêmes combats qu'une femme trans, qui n'aura pas les mêmes combats qu'une femme noire, qui n'aura pas les mêmes combats qu'une femme trans noire. Enfin, il y a plein de degrés. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de ces espaces de non-mixité dont je parlais tout à l'heure. C'est parce que, bah, il y a des mouvements qui ne peuvent pas, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement chapiteau qui est le féminisme, mais en dessous, il y a plein de ramifications. Et pour être le plus inclusif possible, bah, ça demande de se poser des vraies questions et de faire attention à trouver sa place et à pas marcher sur les autres, quoi. Parce qu'on est beaucoup, et du coup, on est toujours en train de regarder à droite, à gauche, de « alors attends, j'ai dit ça, mais est-ce que ça n'a pas fait de mal à ma voisine ? Non, c'est bon, elle va dire ça, mais moi, ça va me faire du mal à moi. » Enfin, c'est sans fin, quoi. Donc je comprends que ce soit épuisant pour beaucoup de personnes,
Je sais pas si c'est sans fin, peut-être que c'est juste un principe général de vie de pas avoir trop de mal à remettre en question ses préjugés.
C'est ça.
C'est plus un principe général.
Bah ouais.
C'est parce qu'en fait, tu vas pas aller dans chaque case et voir comment ça se passe et faire un dictionnaire de tout ce que tu dois penser.
Bah oui.
Mais tu peux avoir des principes généraux qui sont difficiles à appliquer. Hein.
Bien sûr.
Tout le monde a ces trucs ancrés qui sont vraiment ancrés profondément.
Ouais.
Et même les gens les plus tolérants du monde, je pense que tu peux les mettre face à un truc où ils font ça, c'est de la merde.
Oui. Tu vois ? Bah oui.
Je pense que c'est plus une espèce de posture de l'esprit,
ouais.
De se dire à chaque fois que on me parle d'un sujet et que je sens un peu une sorte de d'agacement ou d'irritation à l'intérieur. En fait, je pense qu'il faut arriver à s'observer
Et
voir cette irritation, voir cet agacement.
Comprendre d'où elle vient.
Voilà. Pourquoi est-ce que je sens ça? Pourquoi est-ce que je me, en fait, pourquoi est-ce que mon identité se sent agressée face à ce truc-là, en
Exactement.
Fait. Je pense que c'est ça la vraie question. Et du coup, si t'arrives à mettre ce principe général un peu,
t'avances plus facilement.
T'avances. Et encore une fois, tu vas pas, enfin, je pense que c'est utopique, mais tu penses aussi sûrement d'attendre des gens du jour au lendemain la tolérance
c'est
ultime.
Pour ça, bah oui, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que je pense que ça va prendre plusieurs générations. C'est parce qu'il faut inculquer ce principe-là très tôt. Et sauf qu'il y a des gens, aujourd'hui, qui ont 45 ans, ça va être difficile de les faire.
Et ça, c'est tellement intéressant dans ton bouquin. Pour moi, c'est la partie la plus intéressante. C'est, alors, ça commence sur, déjà, les règles, on en parle nulle part.
Ouais.
Et c'est tellement vrai. C'est marrant qu'il faille que je, enfin, il faut que je lise ce truc pour me dire, c'est vrai, en fait.
Bah,
même
oui.
dans Walking Dead.
Ce qui est quand même ouf.
Ce qui est quand même dingue. Mais après, dans Walking Dead, j'aurais tendance à penser qu'ils ont beaucoup de tampons à disposition pour le coup. Mais ils en parlent
pas.
Aucun moment. C'est vrai que les mecs vont tout le temps chercher des mouchoirs.
Oui, voilà.
Des trucs. Et à aucun moment, il y a une expédition.
Et ça coûterait rien de mettre un plan où tu dis juste, la meuf, elle prend tout le rayon de tampons et de serviettes hygiéniques et elle le fout dans son chariot. Et ça coûte que dalle, hein. C'est une seconde de plan. Tu mets ça avec les mouchoirs, avec le PQ, avec le machin. Et juste pour me rappeler que, il y a ça aussi qui existe. Alors qu'il y a tout un arc autour d'une femme enceinte qui essaie d'avorter, de faire un test de grossesse. Et ça, on le trouve, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand il s'agit de parler des règles, on n'en parle pas du tout.
Ouais. De toute façon, je trouve que c'est une série vraiment nulle après la première saison, mais bon. et donc, il y a Walking Dead, mais il y a tout le reste. Que ça va des bouquins de SVT en fait où genre c'est le début aux pubs où en fait on ne représente jamais les choses comme elles sont et en fait surtout vraiment le truc qui m'a frappé c'est que je me suis dit dans tous les romans que j'ai lus il y a aucun moment où on en parle même pas dans les trucs genre les rois maudits où tu te dis le mec il va loin tu vois il pourrait en parler et ça c'est dingue en fait
alors que des gens qui vomissent des gens qui vont aux toilettes des gens qui sont malades des gens qui pissent dans les bois il y en aura plein quoi
et tu sais quoi en lisant le bouquin je parlais de ce truc, tu sais, tu sens une sorte de réaction à l'intérieur. En lisant ton bouquin, tu parles des règles à toutes les pages, et moi j'étais là au début, j'étais là, je me sentais presque ça me gênait.
Bah oui.
Tu vois, je lisais ça, j'étais là, putain, c'est chelou ce truc. C'est bizarre quoi. Et je me disais, c'est marrant que tu te sentes comme ça, et tu vois, ça révèle un truc, je pense. Et sûrement un conditionnement.
Oui, mais parce qu'on apprend aux hommes que ça les regarde pas et que c'est pas leur histoire. Et donc, du coup, ils passent leur vie à éviter ce truc-là en disant non, ça me regarde
comme
pas.
Comme une atteinte à la pudeur, un peu. Mais voilà, c'est ça.
C'est ça.
Je trouvais ça vraiment intéressant. Là, je parle de moi et je me trouve vraiment intéressant.
mais ça l'est. Et justement, j'aime bien avoir le retour des hommes aussi qui n'ont pas leurs règles et qui lisent mon livre. Parce que il y en a plein que ça a intéressé. Et il y en a plein qui ont eu exactement la même démarche que toi. Au début, c'est j'ai l'impression d'être sur un terrain où je devrais pas être. Et finalement, tu te laisses prendre et tu dis, en fait, je ressors grandi et informé et finalement, je suis plus fort de ces informations-là et ça va me servir dans la vie pour le vrai, quoi.
Et en plus, là, je parlais des faits qu'on en parle nulle part, mais c'est pas ça le problème, c'est qu'en plus, non seulement on en parle nulle part, mais quand on en parle, depuis la nuit des temps, c'est pour dire que c'est de la merde, quoi.
Oui.
Et que c'est, donc, si tu prends les trois religions monothéistes, tu remets des extraits dans ton bouquin, c'est génial, quoi. C'est impur et c'est source de toutes les
maladies,
les invasions de sauterelles, etc. Voilà. C'est ça, quoi. Et en plus, toi, tu donnes un autre exemple d'un type encore plus barré,
l'ancien.
C'est Pline l'Ancien. Ouais. je sais plus ce qu'il dit d'ailleurs, mais
il dit tout un tas de trucs, à savoir que les femmes, quand elles ont leurs règles, elles ternissent les miroirs, elles font tourner le vin.
Oui, elles font tourner le vin.
Elles se font mordre par un chien. Non, si elles passent à côté d'un chien, la morsure de ce chien devient ensuite venimeuse. Elles font tomber, elles font faner toutes les récoltes. Franchement, c'est ce que je dis aussi dans le bouquin, c'est que si les règles avaient vraiment ce pouvoir-là, le patriarcat, ça n'existerait pas. Hein.
Ouais, ce serait carré en fait.
Voilà.
Le monde.
Mais vous seriez tous nos esclaves depuis très très longtemps.
Ouais.
Si on avait le pouvoir de faire tout ça avec nos règles, les femmes seraient au top du top de la société. Hein.
Ah d'ailleurs, si, carré, c'est un des premiers exemples de où on parle.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est marrant que ça soit un peu associé à un élément de puissance. Film. Du coup, à la fin, elle finit par tuer tout le monde.
En fait, c'est ça c'est un peu ambigu, le traitement de la puberté dans Carrie. Moi, je l'aime beaucoup parce que, je suis fan de films d'horreur avant tout, d'une part, et parce que j'adore quand le féminin est monstrueux.
C'est un livre, Carrie. je déconne.
Bien sûr. Mais, j'avoue que je n'ai pas lu le livre. Voilà. Mais, par contre, j'ai vu toutes les adaptations et toutes les suites, hein. Mais,
Ok.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mais en fait, j'adore le féminin monstrueux. C'est un truc qui me fascine depuis très longtemps. Et en même temps, c'est hyper ambigu parce que du coup, ça renforce des trucs moyenâgeux et de l'antiquité qui définissent déjà la femme comme monstrueuse et qui ont servi à nous assouvir, à nous opprimer.
Genre l'exorcisme.
Voilà.
L'exorciste.
Tu vois, typiquement, ce genre de truc où tu te dis, waouh, c'est trop bien, c'est la femme qui a le pouvoir, elle détruit tout. Et en même temps, ça s'appuie sur des trucs que, voilà, on rappelle que la femme est un monstre, on rappelle que la femme détruit, on rappelle que si la femme a du pouvoir, eh ben, ça va mal tourner. Donc, du coup, c'est un peu ambigu. Et en même temps, c'est quand même jouissif à voir, quoi.
En fait, ça me fait penser à un truc, y a mon grand-père qui est mort. Boum! Bombe lâchée.
Ça, c'est fait.
Récemment. Et on est allé à la messe. Parce que, et en fait, la messe, c'est un truc auquel moi, je vais jamais. C'est pas trop mon truc, ma tasse de thé.
Ouais.
Mais bon, donc là, on y était. Et y a un truc qui m'a frappé, c'est que j'ai trouvé que ça faisait vraiment illustration de folie collective, en fait, j'ai trouvé.
Ouais.
Et que le type qui donnait la messe, donc, en fait, j'avais l'impression qu'il racontait des j'espère que ça va pas choquer des gens sur le podcast, mais qu'il racontait des aberrations et que tout le monde hochait la tête. Mmh. Et notamment à un moment où pour moi c'était le summum, c'est quand il a dit que il parlait de Marie. Il disait que Marie, c'est marrant parce que c'est en cérémonie, il parle pas du tout du mort, il parle que de Jésus, ouais, Dieu et de Marie. Il disait que Marie était géniale en quelque sorte parce que non seulement elle avait eu un gosse qui était un dieu,
ouais,
mais qu'en plus elle l'avait eu
sans salir
quoi. Et donc le mec, en fait, je trouvais moi que il te met un modèle de base déjà. Tu te dis c'est la religion dominante en Europe depuis 2000 ans. Et le mec te met un modèle de base où, en fait, il faut tendre vers « j'ai un gosse, mais sans baiser, quoi ».
Ouais, mais c'est toujours le paradoxe de la mère et la putain, en fait. Et ça, c'est un des combats féministes qui existent depuis très longtemps. C'est que tu peux être soit l'un, soit l'autre, mais tu peux rien être entre les deux. C'est-à-dire que quand tu es une femme, tu es soit mère, soit putain.
C'est-à-dire qu'il y a deux cases et qu'en fait, si tu fais un effort pour t'en distancier, on va forcément te ramener à une des deux, c'est ça ?
Voilà, c'est que tu dois être soit pure, monogame, vierge avant le mariage et parfaite en tout sens et dévouée à ta famille et à tes enfants, soit tu fais autre chose et à ce moment-là, t'es une pute et t'es une traînée et t'es une impie, une hérétique et machin. Et si tu regardes bien la plupart des œuvres, que ce soit au cinéma, dans la littérature, etc., il y a toujours cet archétype-là. Il y a toujours la vierge et la putain, ou la mère et la putain. Et
ou la mère qui devient putain pour les besoins du film, voilà. Et qui revient mère à la fin, voilà. Parce que c'est la fin de l'arc. En effet, ouais. Et ça me fait penser à un truc que j'ai lu récemment, un bouquin, tu sais, c'est King Kong Theory.
Ouais.
Et elle parle de ça beaucoup, du problème de la féminité, de la case, en fait.
Ouais.
Et c'est dans son bouquin, il y avait des choses qui me faisaient penser à ça aussi, où en fait il y a une définition de ce que doit être la féminité,
ouais,
qui est représentée comme la norme. Et en fait, s'en écarter, c'est assez dangereux parce que non seulement la société t'en veut, mais toi, tu t'en veux aussi.
Exactement.
Puisque la norme ne t'accepte plus, voilà, en fait.
Donc c'est pour ça
Et en fait, les femmes, j'en parle, parce que j'en parle de plus en plus avec même ma famille, ma grand-mère, ma mère. Moi, ça m'arrive d'entendre pas forcément ma grand-mère, mais des femmes âgées dire « elle est pas bien dans sa peau, regarde, elle est pas féminine. »
Ouais.
Et tu te dis, mais en fait, c'est parce qu'elle met pas des talons et qu'elle se maquille pas que tu
penses... C'est qu'elle met sa féminité ailleurs, quoi.
Bref, moi je débarque, hein, donc désolé aux
gens. Non, mais moi aussi, en vrai, on débarque tous, hein. On a à des degrés plus ou moins différents, mais moi je suis pas une experte en études de genre et de féminisme. C'est juste du vécu
bon
et des constats, et voilà. Hein ?
Et un peu de bon sens
aussi. Voilà. Mais j'ai pas la vérité absolue et je m'en suis jamais vantée et j'invite tout le monde si je dis une connerie, j'invite toujours les gens à me dire là t'as dit une connerie et à m'expliquer pourquoi, pour que je puisse grandir et apprendre, parce que j'ai toujours à apprendre. Et je pense que c'est dans ces combats là on a besoin d'humilité justement aussi. On a besoin de se dire, bah, en fait, on vient tous d'endroits différents, on n'a pas tous les mêmes armes, et parfois on dit de la merde, et ça arrive, c'est pas grave. Du moment que ton être entier n'est pas un bâton de merde, tu peux toujours réparer les choses, on va dire, quoi.
Et ça, c'est important, je pense, parce que t'en parles aussi à un moment, donc tu dis, enfin, là, tu dis qu'il faut pas oublier que les autres, chacun vient d'endroits différents et que chacun a son parcours à faire. Ouais. Il y a autre chose, t'en parles, c'est tu dis, il faut pas oublier. Tu sais, on a tendance à se couper du passé.
Ouais.
Et dire, oh là, ils étaient vraiment tarés dans le passé.
Exactement.
Et ça s'applique à plein de choses. C'est pas du tout que le féminisme. Hein.
Oui.
Quand tu vois les gens dire, ouh là là, les nazis, vraiment, ils étaient tarés. Hein. Ouais. C'était vraiment une époque où il pouvait se passer n'importe quoi. Hein. Tu sais, en fait, t'es à une époque où
on
il
est
se passe
en plein
plein
dedans,
de...
là.
Et ouais, donc tu parles de ça à un moment. Tu dis, je crois que c'est pas, donc c'est forcément par rapport aux règles. Là, je me suis un peu perdu dans mon fil de pensée. Qu'est-ce que tu dis déjà? Tu dis qu'il faut pas. Tu dis qu'on. Voilà, c'est pas parce que à une époque il y a eu des choses aberrantes qui se passaient.
Oui.
Qu'il faut croire que déjà on a aucun lien avec ces gens du passé.
Ouais.
Et qu'en plus que c'est fini, quoi.
Ouais. Et qu'ils sont si loin que ça. Parce que effectivement, enfin, tu vois, rien que l'idée que l'utérus puisse se balader dans le corps à la recherche d'un bébé, ça existait encore au XVIIIe siècle. Hein. Donc nous on rigole parce que c'est l'Antiquité, mais c'est resté chez les médecins pendant très 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 longtemps.
Mais moi j'ai envie de dire, ça c'est un truc que j'ai envie de dire en lisant ton bouquin, que c'est compréhensible parce que tellement ça a avancé hyper vite récemment, mais pareil avec la technologie.
Oui.
Enfin les mecs ils ont quand même écrasé du blé avec avec des bâtons pendant tu vois. Donc ça c'est c'est pas un truc qui me surprenait limite. Mais ce qui surprend je trouve c'est qu'on coupe aussi vite.
Oui voilà c'est ça et c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même rester proche de ces ancêtres là qui sont pas si loin.
Non.
Et dont on a hérité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on rigole en disant ils croyaient que l'utérus se baladait. Ouais bah aujourd'hui on croit encore qu'on n'est pas capable de faire monter une mayonnaise. On croit encore que.
Alors ça c'est quoi? Non parce que moi j'allais te poser la question. Ce truc j'en ai jamais entendu parler moi.
Ah ouais.
Une femme a ses règles, elle peut pas faire monter une mayonnaise.
Oui ça fait partie des mythes qui existent encore aujourd'hui et il y en a plein des femmes qui ont leurs règles qui te disent ah non mais moi c'est sûr hein, je peux pas faire monter des œufs en neige quand j'ai mes règles, c'est certain, j'ai essayé plein de fois et ça marche pas. Et c'est pour ça que pendant Une Nuit Originale avec Marion Seclin on avait fait un segment sur les règles, on a demandé à une copine Cyrielle qui avait ses règles ce soir-là, de nous faire une mayonnaise, et ben elle l'a réussi, et on l'a bouffé sa putain de mayonnaise.
Il y a un autre truc que j'ai lu dans ton bouquin, que j'étais là, mais vraiment, moi je tombe nu, il y a plein d'autres choses dont j'avais jamais entendu parler, c'est le côté la gifle,
oui.
Quand t'as tes règles,
ouais.
De prendre une tarte.
Oui, et c'est en fait, un rite de passage.
Un rite de passage.
Ouais. Mais après, c'est pas... alors c'est,
je pense
ça
pas
vient
que ma mère ait fait ça à ma sœur. Hein, pour le
j'espère pas, mais ça se fait encore beaucoup, et j'étais à un salon du livre en Suisse il y a pas longtemps, et quelqu'un feuillette, enfin une femme feuillette mon livre avec une amie à elle, et elle tombe sur ce passage-là, elle fait oh moi aussi c'est vrai, je me suis pris une tarte. Hein. Et d'ailleurs ma fille quand elle va les avoir, elle va s'en prendre
elle
une aussi.
Une bonne dans la gueule.
je savais pas, fallait que je reste polie parce que je ne connaissais pas cette personne, j'étais à un salon du livre, tu vois, c'était pas un débat, une table ronde, mais j'ai essayé de lui faire, enfin de lui faire acheter mon livre parce que dedans je dis que c'est une tradition de merde, mais je voulais pas lui dire hey, meuf tes principes c'est de la merde, t'as pas intérêt à toucher ta fille sinon je te décapite. Mmh. Parce que c'est pas mon rôle, je suis pas, enfin tu vois je la connais pas, c'est hyper compliqué, mais et effectivement il y en a qui en ont jamais entendu parler et il y en a d'autres qui l'ont vécu et pour qui c'est un truc familial. J'ai une copine notamment qui s'est pris une tarte de la part de sa grande sœur pendant ses règles, enfin
sûrement que la grande sœur s'était pris la tarte aussi, non?
Je sais plus si elle s'était pris la tarte, je crois.
Parce que ce genre de rite de passage, en fait, se perpétue
cas,
parce que comme tu les as subis.
Elle a voulu avoir ce rôle. Elle a voulu avoir ce rôle pour sa sœur. Elle a voulu que ce soit elle qui file la tarte. Je pense que c'était juste une excuse pour mettre une tarte à sa sœur, hein, mais voilà. Et donc, les explications sont variées. Il y en a qui disent que c'est pour faire revenir le rose aux joues parce que tu perds du sang, t'es un peu anémié quand t'as tes règles. Donc, on te met une tarte pour te redonner une bonne mine. Il y en a d'autres qui disent que c'est le dernier châtiment corporel que tu recevras. Parce que c'est le passage à l'âge adulte.
Ce qui n'a pas l'air trop vérifié.
Ouais, voilà, déjà, c'est déjà dommage que tu en reçoives avant. Et en plus, t'inquiète qu'il y a des chances que tu en reçoives encore après. Mais,
et tous ces trucs-là, c'est intéressant. Tu les connaissais, ceux-là. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes dans le bouquin, un peu à tomber par terre.
Ouais.
Et en fait, ça, c'est des trucs que tu as souvent lu, par des commentaires sur tes articles, sur les articles que tu publiais, ou des trucs que tu allais lire sur Internet.
J'ai fait beaucoup de recherches sur les forums pour ados et Doctissimo et tout ça. Et c'est là que...
Ce qui montre qu'il y a un gros déficit d'informations, en fait.
Complètement. Et c'est là que j'ai réalisé. But, voilà. C'est là que j'ai réalisé à quel point là, c'était des jeunes filles, en l'occurrence, qui n'en savaient rien du tout et qui vont sur les forums pour poser des questions en disant les filles, moi il m'arrive ça, est-ce que vous pouvez m'aider? Et là il y a des nanas qui arrivent en disant alors t'inquiète, moi je vais t'aider, je sais tout, et elles disent des trucs mais aberrants, mais qui n'ont aucun sens, et du coup les autres filles disent oh merci beaucoup, je vais faire ça, et du coup on est reparti pour un cycle de désinformation et d'ignorance.
C'est quoi, c'est des gouttes de citron à la pleine lune,
alors il y en a une, celle que je préfère, c'est pour si tu veux faire venir tes règles parce que c'est un peu la honte de pas les avoir à 13 ans, tu te mets un doigt dans le cul et faut que tu pousses jusqu'à ce que ça craque ou un truc comme ça. Enfin, c'est complètement absurde, quoi. Ou d'autres qui disent, ouais, il faut utiliser des tampons pour filles vierges. Ça n'existe pas, hein. Et on croit encore que les tampons des pucelles, ce n'est pas vrai. Donc, elles utilisent encore le terme déviergée. Genre, j'ai peur de me faire déviergée. Pour moi, c'est le 18e siècle, hein, ce discours-là, quoi. Et non, bah, en 2017, on croit encore ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce putain de bouquin en pensant à ces nanas-là, en disant, putain, j'espère que ça va leur tomber entre les mains. Et qu'il y en a plein qui vont éviter ces passages sur les forums où elles apprennent n'importe quoi. Pour voilà, pour qu'elle gagne du temps, quoi, et qu'elle passe pas par toutes les étapes par lesquelles nous on est passé de ah c'est dégueulasse, ah oh, j'ai honte, ah oh, j'utilise pas les bonnes protections, ah oh, je me fais n'importe quoi, comme les nanas qui se conseillent entre elles sur ces forums de mettre des parce qu'elles ont peur d'avoir une fuite à l'école, c'est la trouille ultime d'avoir une tache sur son pantalon quand on est au collège,
d'autant que tout le monde se fout de ta gueule.
Exactement. C'est l'enfer, le nombre de copines que j'ai vu partir en plein milieu de la journée, qu'on fait appeler leurs parents pour rentrer chez elles parce que c'est attaché leur pantalon et tu peux pas continuer ta journée d'école dans cet état-là. Enfin bref.
Ça, c'est vraiment un coup à foutre ta vie en l'air, j'ai envie de dire, tellement la pression est forte au collège.
Bah ouais.
Le collège, je pense que c'est le pire moment de la vie de tout le monde.
Moi, c'est la période qui m'a détruite. Hein. Je m'en remets encore aujourd'hui, j'ai 30 piges et je suis encore en train de réparer les pots cassés du collège. Hein.
En fait, le collège, c'est vraiment cette scène dans Carrie au début, quoi.
Ouais.
C'est vraiment cette scène où tu vas pas bien, tu demandes ce qui va pas chez toi, et tout le monde se fout de ta gueule.
Ouais, et l'utilise contre toi.
Voilà.
Ah, si tu montres le moindre signe de faiblesse au collège, c'est fini. Si tu rentres pas dans le moule parfaitement, c'est terminé pour toi.
Il y a un moment où tu dis, c'est quoi, tu dis, ta faiblesse n'est pas... Attends, j'ai noté en plus. Mais non, mais qu'en fait, c'est pas parce que t'es faible que t'es... Oh là là, j'avais la phrase, bordel.
Reprends tes notes.
Mais non, mais en fait, tu milites pour un droit à la faiblesse un peu, tu vois.
Oui.
Et moi, je suis d'accord avec ça.
Oui.
Et ça me fait penser à... C'est King Ju, le chanteur de Stupéflip, qui dit ça aussi. Il milite pour un droit à la faiblesse.
Bah ouais.
Et je suis d'accord. Je trouve que la faiblesse est trop perçue comme un truc négatif, tu sais.
Bah, surtout qu'on met le mot faiblesse sur tout et n'importe quoi, alors que ça n'a, enfin, c'est pas parce que tu souffres pendant tes règles que t'es faible, c'est pas parce que t'es dépressif ou t'es malade mental que t'es faible, c'est pas parce que.
Non, mais le moindre signe d'humanité, en fait, c'est pris pour de la faiblesse.
Voilà,
en fait, si tu montres que t'as des émotions,
ouais,
qu'il y a des fois où ça va pas, que t'as des défauts
c'est
physiques.
C'est super mal vu. Bah oui.
Et en fait, parce que je pense que, j'ai pas envie de faire de la psychologie à deux balles, mais que les gens l'acceptent pas chez eux.
Ouais, bien sûr.
C'est la norme, et
bah,
du coup,
oui.
Voilà.
Évidemment, ils se mettent une telle pression pour ne pas être cette personne qu'ils n'autorisent personne d'autre à le faire et que. Oh, t'as écrit dans mon livre.
Ouais,
j'ai cassé la gueule.
Je Je trouve pas. Oh là là, je suis tellement triste.
Mais oui, mais on en revient à ce que je te disais tout à l'heure sur les histoires de compassion et d'empathie et de pédagogie. C'est toujours la même racine et toujours le même principe de putain, on est des humains, quoi. On a le droit de se réveiller un matin et de dire la vie c'est de la merde, et on a le droit de se réveiller le surlendemain en disant en fait ça va, et de dire j'ai envie de tout envoyer péter et je me déteste et je déteste la vie et je déteste machin et je déteste bidule. On a le droit, quoi.
Et ça, c'est intéressant. Je pense, tu penses que, enfin, peut-être que tout le monde, en fait, a des, tu sais, des choses dont, des souffrances ou des choses dont ils ont envie de parler.
Bah oui.
Mais en fait, ils en parlent pas. Et que, tu sais, toi, ce que t'as fait, c'est que t'as décidé d'en parler.
Ouais.
Et tu remarques, et on en parlait avant le podcast, mais tu remarques que dès que tu mets un peu ces choses en lumière, tu parles des impuretés, que tu parles des imperfections, ça résonne.
Bah oui, et ça ouvre une brèche, et là, les gens se précipitent en disant putain, moi aussi, merci d'en parler. Et je reçois des messages, parfois des mails, enfin, quand je parle de dépression, par exemple, je reçois des mails de 4 pages de gens qui me disent merci, vraiment, c'est hyper important ce que tu fais, t'es vraiment forte. Et moi, quand je lis ça, je me dis, mais je suis forte de rien du tout, j'ai fait une note de blog parce que j'avais envie de crever, elle est où ma force là-dedans? C'est te dire à quel point, enfin, où on met le degré de courage et de force aujourd'hui, c'est juste de dire, eh, ça va pas. Ça demande du courage et de la force, quoi.
C'est ça, la force, tu vois.
Bah
on a, c'est marrant qu'on associe ça à de la faiblesse,
eh oui,
alors que c'est l'inverse.
Mais non, c'est
le fait d'avoir le courage de dire que tu n'es pas parfait, enfin, au sens de la norme. C'est ça, le vrai courage,
bah oui,
en quelque sorte. Parce que ça fait peur. Et en fait,
parce que c'est hyper facile de suivre la norme en réalité et de dire non, moi je suis le poisson pilote et on fait tous pareil et je vais pas dépasser d'un poil parce que sinon je vais être mal vu, quoi.
Mon grand-père, dédicace à lui, qui écoute tous les podcasts d'ailleurs maintenant, a écouté Gringe et disait oui, ce pauvre Gringe, il va lui arriver des bricoles parce qu'il dit trop de trucs sur lui et il est dans le showbiz. Et moi, ce que je pense, donc je l'ai pas encore dit mais il va l'entendre peut-être, c'est que c'est l'inverse, en fait.
Ouais.
Que plus tu livres, tu sais, c'est un peu à la Eminem, tu vois.
Ouais.
Plus tu livres de choses sur toi, et moins t'es vulnérable,
ouais,
en fait. Parce qu'on peut plus t'attaquer.
Exactement.
S'il y a une différence entre la personne que t'es vraiment et la personne que tu montres, là,
ouais,
t'es hyper fragile. Parce
que ça a toujours été ma démarche, justement.
Et ben voilà. Et c'est pour ça que je voulais aussi t'inviter. Parce que je t'avais entendu raconter des trucs hallucinants sur le flowcast de Flaubert.
et que je voulais faire passer le message aux gens qui écoutent que je pense que, en fait, dire la vérité, c'est plus dur.
Bah ouais.
Mais c'est aussi.
Mais c'est tellement plus gratifiant. Et c'est vrai que du coup, moi, étant un personnage public à toute petite échelle, hein, mais déjà, on en sent les ramifications quand on est tout petit, je sens que les gens cherchent des trucs, mais ils trouvent rien parce que je mets tout. Et c'est comme les, enfin, j'ai parlé de la relation avec mon père, j'ai parlé de la dépression, j'ai parlé de mes relations sexuelles, j'ai parlé de tous mes trucs de loser de collège, enfin tout est sur internet, tout est trouvable. Et du coup, je me retrouve parfois face à des gens, notamment des mecs, avec qui je couche et qui me disent, toi, le jour où tu réaliseras que t'as un problème avec ton père, t'avanceras vachement. Et je le regarde et vraiment, je me dis, waouh, t'as trouvé ça tout seul, c'est bien, parce que j'en parle tellement que. Il y a plus ce truc de non, tu vois, il y a un côté pervers
de. Ça doit être un moment sympa d'ailleurs.
Ah, je déteste, j'ai envie de les tuer. C'est... En fait, il y a des mecs qui sont, je dis des mecs parce que je suis hétérosexuel, donc je vois principalement des mecs, donc je sais pas comment ça se passe ailleurs.
Fais pas, personne ne va être vexé encore.
Voilà. Not all men. Mais il y a beaucoup de mecs qui sont extrêmement pervers dans leur rapport amoureux et sexuel et qui vont aller chercher le truc de la vulnérable chez la meuf pour pouvoir appuyer dessus et se mettre en position de pouvoir. Et sauf que moi, ça, sur moi, ça ne fonctionne plus. Et c'est là que j'ai trouvé ma force, c'est parce que tu peux plus m'attaquer sur ce genre de truc, parce que je me suis déjà attaqué 500 000 fois avant toi, déjà, et en plus, j'ai fait la paix avec tout ça, ou en tout cas, c'est en cours. Et du coup, si tu t'appuies là-dessus pour essayer d'assouvir un fantasme de domination sur moi, mais tu peux toujours courir pour que je pleure dans tes bras, mon gars, quoi.
Je sais même pas si c'est un fantasme de domination, est-ce que c'est pas plutôt une vraie peur et une vraie insécurité face à au sentiment que la norme, encore une fois, veut que tu sois dominant, et qu'en fait, tu te rends compte que... toute honnêteté, les mecs sont souvent beaucoup plus stressés que les filles, quoi. Tu couches avec la fille et tu te dis j'ai réussi, j'ai pas réussi. Tu vois, c'est un peu tu passes le bac, quoi, à chaque fois, tu vois. Et je pense que faut aussi faire la paix avec ce truc là tu vois.
Bah oui.
C'est pas le sujet du jour, mais
il y a matière aussi à discuter là-dessus, hein.
T'es contente l'accueil du bouquin, de la résonance du truc, ou du
Je suis extrêmement contente. C'est-à-dire que c'est pas un succès commercial parce que c'est un sujet de niche d'une part, et parce que le marché du livre en ce moment,
je l'ai bien cherché à la Fnac, hein.
Voilà.
Il était dans je sais pas quel truc gynécologie fond du rayon.
C'est le problème de ce bouquin-là, c'est qu'en fait, ils ont pas réussi, ils auraient dû le mettre dans les essais et sociétés, sauf que comme ça parle de règles, il faut tout rayon santé. D'ailleurs, sur Amazon, je suis classée dans les rayons santé femmes, donc vraiment encore plus, tu peux me chercher, quoi. Mais, donc c'est pas un succès commercial et je sais pas ce que j'en attendais vraiment, mais c'est un succès critique dans le sens où je n'ai pas reçu une seule critique négative de ce bouquin. Pas une. Mais vraiment pas une. Et pourtant, il y en a eu beaucoup, hein. Mais c'est toujours du 4-5 étoiles et toujours des diatribes incroyables de « oh là là, c'est trop bien parce que si, parce que ça, lisez-le, faut vraiment que tout le monde le lise ». Les gens finissent toujours par cette phrase-là de « à mettre entre toutes les mains ». Et c'est exactement l'objectif que j'avais en écrivant ce bouquin, c'est qu'il soit accessible à un maximum de monde. Et du coup, je sais que c'est un bouquin de transmission qui va s'asseoir sur le long terme dans la vie des gens, quoi.
D'où l'humour aussi, d'où le style un peu léger qui fait que ça se lit bien.
Ça, c'est mon style de toute façon.
De base,
c'est je pouvais pas écrire autrement parce que j'ai toujours écrit comme ça. Donc j'ai dû juste faire attention à dire moins de putain et de bordel de merde et de chat, parce que ça, je parle énormément comme ça et sur internet aussi beaucoup. Donc mon éditeur m'a dit, alors soit toi, mais version quand même pour les enfants, quoi. Mais mais le ton, enfin, c'est entièrement moi, quoi.
Peut-être aussi que ça, parce que c'est nouveau, je pense que tu sais, c'est un peu le propre des trucs artistiques, c'est d'essayer de faire un truc un peu nouveau.
Oui.
Et en fait, quand tu fais c'est marrant, c'est intéressant. Moi, ça me surprend que tu dises qu'il y ait aucune critique négative. J'aurais eu tendance à penser que ça allait justement plus cliver, peut-être. Tu vois.
Bah, en fait, je pense que les gens qui potentiellement pourraient lui donner une critique négative sont les gens qui, de toute façon, ne vont pas le toucher.
C'est ça.
Donc c'est l'avantage.
Alors si on le remet dans la gueule, comme chez Bourdin par exemple, là tu reçois les critiques négatives qui ne sont pas sur le livre, qui sont sur toi,
voilà, sur
mais
moi.
Qui pourraient. Tu vois, je pense que si on mettait ton bouquin au journal de 20h et que du coup 200 000 personnes allaient l'acheter, t'aurais
là,
sûrement.
Oui, bien sûr. Et encore, je suis même pas sûre en fait.
Ah ouais.
Je suis même pas sûre parce que je vois pas sur quoi je peux être attaquée dans ce bouquin. Je vois pas sur quoi. Enfin, c'est tellement. J'ai essayé de faire en sorte justement d'être tellement factuel et tellement dans le. En fait, c'est chacun pour soi, chacun comme il veut. Vous mettez pas la pression. On fait chacun avec les armes qu'on a. Etc. Enfin, j'ai essayé d'être vraiment aussi bienveillante, même si j'en ai marre de ce terme, mais aussi bienveillante que possible. Et du coup,
pourquoi t'en as marre de ce terme?
Parce qu'il est un peu utilisé à tort et à travers en ce moment sur Internet avec la politique de la bienveillance et sauf que c'est parfois utilisé par des gens qui sont pas du tout bienveillants Et c'est juste pour se donner un bon genre, et, voilà. Et pour dire, non, mais moi, je suis gentille. Regardez comme je suis très gentille. Non, ta gueule, arrête. Je t'ai vu au café du coin l'autre jour. Je sais très bien ce que tu racontes sur machin bidule et intel. T'es pas gentil du tout. C'est pas vrai. Mais, bienveillance, ça veut tout et rien dire, quoi. C'est, ça fait, enfin, tu vois, c'est comme les nouveaux termes à la mode. À chaque fois, je me méfie dès qu'il y a un nouveau mot à la mode. Je me dis, alors, attends, qu'est-ce qu'on fout là-dessous? Parce que ça veut rien dire du tout. Mais ça fait quand même partie des termes que j'ai gardé en tête quand j'ai écrit ce bouquin. C'est essayer d'écrire un truc justement qui fait pas mal et qui froisse pas et qui violente pas, qui brusque pas.
Qui inclut tout le monde aussi.
Et qui inclut tout le monde.
En fait, toi, ta norme, c'est... Ouh là là là, j'allais lâcher une phrase de podcast. J'allais dire ta norme, c'est la différence.
Ouais. Je vais en faire ma bio Twitter. Ma norme, c'est la différence.
Bref, désolé pour ce... Mais... je peux pas la dire comme ça et faire genre...
Ouais.
Je suis obligé
mais
de...
Mais je vois ce que tu veux dire.
C'était ton rêve un peu d'écrire un bouquin, non?
Ouais.
Ça faisait longtemps que tu te disais j'aimerais bien écrire un bouquin dans ma vie.
Bah depuis toute petite en fait, j'ai grandi au milieu des livres et avec un père extrêmement littéraire et une mère aussi qui écrit beaucoup et on m'a transmis l'amour des livres très 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 tôt et l'écriture ça a toujours été mon refuge et du coup mais comme beaucoup hein.
L'écriture était ton refuge depuis depuis que t'es petite.
Bien sûr. Mon premier journal intime, j'avais 6 ans et je l'ai encore aujourd'hui. Bon, je raconte n'importe quoi mais au moins j'ai ce souvenir de quand j'avais 6 ans.
Tu gardes les trucs comme ça?
Ah mais j'en ai une armoire pleine.
Ah ouais, c'est vrai.
Ah oui.
Moi je les jette ces trucs.
Ah non, mais moi je peux pas jeter.
J'ai l'impression
par
que
contre,
c'est des
ça
me libère de les jeter, tu sais que sinon ça m'encombre.
Ah non non, j'en ai trop besoin justement pour me rappeler d'où je viens, tu vois, j'ai ce truc toujours de n'oublie pas qu'il y a eu ça. Et ben j'ai donné des instructions à mes proches par contre de quand je meurs vous brûlez tout et personne n'en lit une page hein. Ça c'est hors de question, ça part avec moi. C'est pas genre vous allez les prendre et les éditer posthume si je deviens célèbre. Non 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 non.
C'est vrai, tu veux pas?
Non 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 non. Non non, non, j'ai tout écrit justement en me disant que personne les lira jamais, c'est pour que personne ne les lise jamais. Mmh. Donc il y a pas de secret incroyable dans genre hier j'ai tué mon père. Non. Il est mort tout seul mais Il y a pas de truc vraiment compromettant si tu veux, mais c'est mon intime, c'est à moi, donc faut que ça parte avec moi, c'est juste ça s'adresse à moi-même. Et j'ai toujours eu ce besoin d'écrire. Et après, une fois que je me suis mise à écrire sur internet, j'ai découvert la beauté du partage de l'écriture et de ce que ça suscite et des créations, des discussions que ça engendre et de ce que ça peut engendrer chez moi aussi dans ma construction personnelle. Et je trouve que c'est un lieu d'échange qui est hyper fort. C'est un tradition de transmission que j'adore et si je peux bah je vais continuer à écrire des bouquins toute ma vie quoi.
Et c'est quoi tes prochains bouquins alors?
Alors je peux pas le dire parce que j'ai pas encore signé les contrats mais j'ai quelques idées qui n'ont rien à voir avec les règles, pas grand chose à voir avec le féminisme non plus même si on aura toujours un peu mais
Petite question légère, quand tu t'es dit je vais écrire un bouquin, on est venu te proposer un bouquin?
Ouais.
Ou... ouais c'est ça.
Ouais, on est venu c'est Flammarion qui m'a remarqué.
Et
qui
par rapport appelé, à par rapport à ton blog Passion Monstrueuse.
Exactement.
Hein, d'accord. Et t'as donc eu à... ils sont arrivés direct avec le contrat type ou t'avais pas d'agent ni rien?
Non, enfin on a en fait Flammarion c'est une équipe qui est vraiment super cool et très humaine pour le coup, on a vraiment les mêmes valeurs de en fait vous êtes pas juste des gens qui nous crachent de la copie, qui nous font de la thune, vous êtes des êtres humains et on a envie de respecter ça. Et du coup mon éditeur Christophe Apsi, je te salue, a respecté mon ton, a respecté mes volontés. Il m'a rien imposé de ce que je, enfin, de trucs que je voulais pas faire. Si je voulais pas faire un truc, il me disait OK, c'est toi qui choisis. Et j'ai été hyper respectée dans mon contrat. Enfin, je suis accompagnée dans tous mes événements presse par des gens de Flammarion. J'ai vraiment eu la meilleure entrée possible dans le monde de l'édition. C'est-à-dire que j'ai pas galéré avec mon manuscrit sous le bras à essayer de le vendre à droite à gauche. Donc là-dessus, encore, je sais que je suis une privilégiée. Parce que résultat, maintenant, ils attendent qu'une chose, c'est que je signe à nouveau chez eux, tu vois.
Je sais pas si t'es une privilégiée, hein. Je pense que c'est une bonne, comment dire? Un bon principe, je pense, c'est de pas attendre qu'on vienne à toi, c'est de commencer tout seul, tu vois.
Oui, c'est ça.
Et en fait, toi, t'as fait ton blog. Et je pense que c'est vraiment une bonne manière de commencer tout projet.
Oui.
Et de pas attendre, en fait, il y a un problème avec le fait d'attendre l'autorisation.
Ouais.
Tu sais, il y a ces gatekeepers, ces gens qui gardent la clé des trucs cool, genre publier un bouquin, faire un film. Et en fait, t'as toujours des autres manières de le faire.
Ouais.
Ça peut être publié sur Internet, ça peut être s'auto-publier.
Ouais,
les gens s'auto-publient.
Mais je l'ai envisagé complètement, ça d'ailleurs. Hein.
Ou faire qu'un e-book et le mettre sur Kindle.
Ouais, ça aussi, je l'ai envisagé.
Et en fait, je pense qu'il y a toutes ces solutions, mais surtout, l'important, c'est de pas. C'est le petit moment. C'est de pas attendre. En fait, c'est de pas attendre l'autorisation pour commencer parce que tu peux commencer dès maintenant.
Exactement.
Et en plus, tout ce que tu commences maintenant, c'est du capital en plus pour la suite et sûrement que des gens, si ça marche, viendront, parce que les gens qui veulent faire publier des bouquins, ils veulent juste des trucs qui vont peut-être un peu marcher ou intéresser des gens.
Ouais.
Donc s'ils voient que ton blog marche, ils vont te dire, bah viens, fais un bouquin, ça nous intéresse.
C'est exactement ce qui s'est passé avec tous mes projets annexes. À chaque fois, c'est parce qu'on m'avait repéré pour un truc que du coup on m'a invité pour taper, enfin, tu vois, les typiquement les chroniques de l'horreur, c'est Fab, donc le boss de Mademoiselle, qui m'a mis en contact avec Andemol. Ils ont vu ce que je faisais sur mon blog horreur. À la base, on voulait juste faire des vidéos, on savait pas de quoi, hein. Et ils ont vu ça, ils ont dit bah en fait elle va nous faire des trucs sur les films d'horreur, c'est obligé, elle peut pas faire autre chose. Et ils m'ont laissé faire ce truc qui était un de mes rêves. Là, Passion Menstrue, ça a donné un putain de bouquin. Là, j'ai lancé une newsletter sur la sorcellerie moderne. Donc, rien à voir. Hein,
c'est quoi la sorcellerie moderne?
C'est la sorcellerie, mais sans chaudron et sans yeux de triton. Donc ça demande d'avoir une ouverture d'esprit qui est différente. Hein. Je vois sur ton visage que tu n'es pas client, c'est pas grave.
Non, je ne connais pas, c'est tout. Je suis complètement...
Parce que j'ai un côté spirituel qui n'est pas religieux, mais...
C'est le tarot, les encens. Voilà. Bah, c'est pour ma mère, ça.
Voilà, moi, c'est ma mère qui est comme ça aussi. Je tiens ça d'elle, donc... voilà. Alors,
tatouages
un peu chelous, c'est que des amulettes et des trucs ésotériques.
Ça, c'est encore un truc sur lequel il faut que je progresse niveau tolérance, je crois.
Bah oui, mais en même temps, enfin,
c'est
peut
parce
pas...
que c'est lié à ma mère aussi, c'est pour ça.
Bah peut-être. Mais surtout, en plus, ça touche à quelque chose qui est tellement pas concret et qui est tellement juste de l'ordre de ce que tu crois et de la foi que tu peux pas raisonner là-dessus. C'est juste, moi, la religion monothéiste, par exemple, je trouve ça complètement absurde de l'extérieur. Et en même temps, je me dis, bah, ça fait du bien à tellement de gens que, bah, allez-y, faites-vous plaisir. Moi, j'aime pas qu'on me juge avec mes histoires de sorcellerie. Bah, je vais pas juger c'est parce que tu crois en Christ ou Allah ou Bouddha ou j'en sais rien. Ou même si demain tu décides de ressusciter les dieux grecs et de croire en Poséidon. Vas-y, fais ton kiff, quoi. On met juste des mots différents sur des principes qui sont exactement les mêmes, qui sont des principes moraux et de la manifestation et les lois de l'attraction et tout ce genre de trucs. Mmh. C'est exactement ça. C'est juste qu'on l'enrobe différemment.
Et puis vous vous marrez bien, quoi.
Et on se marre bien. C'est surtout ça. C'est y prendre du plaisir, en fait. À partir du moment où ça devient une contrainte et que ça devient chiant, ça m'intéresse plus. Mais moi, je prends du plaisir à faire ça, à faire mes petits rituels, à tirer mes cartes en allumant mon encens. Et j'ai l'impression d'être dans Charmed ou dans Buffy. Et je me dis, oh, je suis trop une sorcière. Alors que non, pas du tout. Mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir. Et du coup, il y a potentiellement un projet de bouquin qui va naître de cette newsletter incessamment sous peu.
Les petits projets qui donnent des grands projets, en fait.
Voilà.
Il y a deux questions que je pose toujours, souvent aux invités.
Ouais.
La première, c'est une question qui pose en entretien chez Facebook. c'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur?
Bah, pareil, mais en plus. Parce que ce que je fais a nécessité que juste de faire, enfin, d'enterrer mes peurs, justement. Je suis déjà passé par ce truc de écrire, publier des trucs, me montrer en public. J'en étais terrorisée avant. Et donc, du coup, j'y arrive maintenant parce que j'ai moins peur. Mais j'aimerais pouvoir faire plus. C'est-à-dire que, tu vois, j'aimerais lancer ma chaîne YouTube, je t'en parlais tout à l'heure, sur les films d'horreur. Je suis terrorisée à l'idée de me mettre devant une caméra. J'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais gamine. Peut-être que j'aimerais bien réessayer d'être comédienne, tu vois. Mais je suis paralysée face à une caméra, j'en suis incapable. Et en même temps, je suis tellement narcissique que j'aime trop qu'on me voit. J'aime trop la reconnaissance. Et du coup, je sais que je passe à côté de quelque chose parce qu'en écrivant des bouquins, bon, on ne devient pas vraiment une superstar.
C'est cool de le dire, ça aussi, je trouve. Par exemple, tu sais, il y a des... Quand tu dis « je suis narcissique »,
ouais.
Y a...
Enfin, je suis nombriliste plus que
nombriliste
narcissique.
Nombriliste ou égocentre, enfin, ce qu'on veut, quoi. Je pense que tout le monde a des choses comme ça,
ouais.
Tu vois. Genre, moi, je sais que j'aime bien aussi le côté... de se mettre en avant,
bah
partager
ouais.
des trucs. Sinon, je serais pas en train de faire un podcast,
bah, c'est ça.
D'écrire des trucs, tu vois. Et en fait, je pense qu'il faut accepter quoi ces
bah
côtés-là
ouais.
qui sont pas forcément des défauts, c'est juste une partie de qui t'es. Mais tu sais, c'est tellement vilipendé.
Bah oui.
Genre,
c'est la culture selfie et machin, et t'es trop imbu de toi-même, et oh là là, elle se trouve trop bonne, elle se trouve trop bien. Non, bah je me dis, bah écoute, aujourd'hui je me trouve bonne, je me trouve talentueuse, bah je vais le dire, et j'ai envie qu'on le voit, et j'ai envie que les gens me disent, oh, t'es bonne et t'es talentueuse.
Mais...
Parce que c'est agréable à entendre quand même, bordel.
Ouais, et puis je pense qu'il faut juste être en accord avec ce qui t'es, ce que tu veux,
ouais.
et arrêter de te dire à chaque fois qu'il y a un... En fait, arrêter de culpabiliser sur qui t'es, quoi. Je pense
voilà.
que c'est un premier point.
On en
étape.
Revient à ce que tu disais tout à l'heure sur se rendre moins vulnérable en exposant tous ces défauts et toutes ces failles. Ça aussi, ça fait partie des trucs sur lesquels je communique de plus en plus maintenant, parce que ça fait partie des choses qu'on me reprochait avant, où les gens me disaient, t'es quand même vachement centré sur toi-même, t'aimes bien être au centre de l'attention. Bah ouais, en fait.
Ouais.
Donc maintenant, j'essaye de faire attention à ce que ça fasse pas du mal aux gens. Mais parce que ça peut effectivement, quand on a ce genre de tempérament, on peut écraser les autres. Et ça, je le comprends et j'essaye d'y faire attention. Mais bah, quand ça ne concerne que moi, ça ne concerne que moi et c'est tout. Bah oui, j'aime bien être au centre de l'attention, bien sûr. Mais parce que j'ai une histoire qui fait que j'ai une revanche à prendre aussi. Et j'en ai parfaitement conscience. Je me suis fait péter la gueule tous les jours au collège pendant des années. Je suis tombée en dépression, pas possible. Donc j'ai été invisible pendant des années. Et quand j'étais visible, c'était que pour me faire du mal. Donc aujourd'hui, oui, j'ai envie d'être reconnue pour des trucs positifs, bien sûr. Évidemment.
Dernière question.
attention, hein, parce que tu dirais quoi à Taous, donc, à 15 ans, enfin, la toi de 15 ans, quoi.
C'est marrant parce que ça fait partie des, c'est un des projets sur lesquels je travaille, justement, le retour à l'adolescence. Je peux pas trop en parler, mais bref, qu'est-ce que je me dirais? Accroche-toi, ça va être chaud. Tu vas en chier, mais ça vaut le coup. Et surtout, arrête de te détester, quoi. J'aurais aimé apprendre à m'aimer plus tôt, parce que je suis aimable. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter, à le dire, mais je suis aimable. Il y a des choses qui sont aimables chez moi, il y en a d'autres pas, mais comme tout le monde. Je suis pas un vieux tas de merde et je mérite pas de crever et de me faire marcher dessus comme je le pensais quand j'avais 15 ans. Et j'ai juste envie de retourner dans le passé, de m'attraper, de me faire un câlin et de me dire ça va aller. Parce que j'avais tellement besoin d'amour et de reconnaissance à l'époque et j'en ai tellement chié, j'en ai tellement pris plein la gueule. Alors ça paye parce que aujourd'hui je suis celle que je suis à cause de tout ça aussi et je m'en sors pas trop mal. Mais putain, si j'aurais gagné tellement de temps si j'avais été capable d'apprendre tout ça à l'époque, si j'avais été capable de reconnaître ma valeur à l'époque et de revendiquer mon existence et mon droit au respect. Et c'est ça en fait, c'est juste vas-y, ouvre ta gueule, te laisse pas marcher dessus.
Eh bien, merci beaucoup, Jack Parker, d'être venu sur Nouvelle École.
Je vais pleurer à la fin du podcast, c'est super, merci.
Ouais, ben c'est bien, c'est fait pour ça, tu sais. C'est la... Gringe, il a dit, disait la Nouvelle École. De psychologie.
Putain, mais je suis déjà en thérapie, j'ai pas besoin de toi.
Hein. Merci beaucoup d'être venu. Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur toi ou qui...
Là où je suis plus présente, c'est sur Twitter, globalement. Jack X Parker, tout attaché. Et Facebook, c'est Jack X Parker, il y en a deux.
Et donc ton livre qu'on va redonner, voilà. Le grand mystère des règles, pour en finir avec un tabou vieux comme le monde, chez Flammarion, par voilà. Jack Parker, qui a des superbes illustrations.
Oui.
Ça, qui c'est sont très, très bien.
Qui ont été faites par Madel Floyd, qui est une très bonne amie à moi. Et ça, pareil, Flammarion m'a laissé choisir mon illustratrice et je suis très heureuse parce qu'elle a fait un super travail.
Ouais, c'est bien, en effet. Voilà. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà, bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple, lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone, cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles, 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.